France Inter.
Bonjour, bonjour et bienvenue dans le Grand Face à Face, l'émission de débat et d'idées de France Inter. À mes côtés, jusqu'à 13h, les duellistes Natacha Polony, journaliste, éditorialiste et à la tête de la nouvelle revue L'Audace, et Gilles Finkelstein, secrétaire général de la Fondation Jean Jaurès. Comme chaque semaine, ils reviendront sur trois sujets de l'actualité et en particulier aujourd'hui sur la tentaculaire affaire Epstein et ce qu'elle produit sur notre regard sur les élites. Et puis pour le débat, nous recevrons une de nos grandes philosophes, professeure émérite à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Inspirée de sa propre trajectoire de la grande pauvreté à l'université, elle a forgé en 2014 le concept de transclasse et dans son nouvel essai « Révolution transclasse » paru aux presses universitaires de France, elle montre comment ses parcours, loin de n'être qu'une aventure individuelle et miraculeuse, peuvent devenir une force de transformation sociale et collective. La philosophe Chantal Jacquet est notre invitée pour le débat.
Le grand face-à-face, Thomas Negaroff sur France Inter.
Mais comme chaque semaine, on commence par le duel. Bonjour Natacha et Gilles.
Bonjour. Bonjour Thomas.
Allez, on commence avec le procès en appel de Marine Le Pen. Le parquet général a requis mardi la confirmation de la peine de 5 ans d'inéligibilité contre Marine Le Pen. L'avenir politique s'assombrit pour elle. Et si elle a gardé le silence, Sébastien Chenu a pris la parole. Le vice-président du parti était jeudi matin sur notre antenne.
Moi, ce qui me gêne, c'est qu'en fait, on aurait l'impression que des juges peuvent décider du casting de l'élection présidentielle. Et ça, c'est troublant. Ce serait la première fois, d'ailleurs. Et je pense qu'effectivement, ça doit nous interroger. Ça doit interroger notre système démocratique. Mais on n'en est pas là. Marine Le Pen a des éléments à faire valoir. Elle peut demain être candidate. Vous pourriez être surpris. Vous l'enterrez régulièrement, Marine Le Pen, depuis toujours. On verra bien. Mais une élection présidentielle sans Marine Le Pen, qui est donnée comme la favorite, etc., c'est quand même troublant.
Alors, c'est troublant, on l'enterre, on entend les arguments de Sébastien Chenu. Gilles, est-ce que tout de même le parti, le Rassemblement National, doit se préparer à se passer de Marine Le Pen, candidate en 2027?
Écoutez, Sébastien Chenu dit Marine Le Pen peut être candidat. Je prends mon risque avec une position tranchée, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais je pense que maintenant, sauf miracle, Marine Le Pen ne sera pas candidate à l'élection présidentielle de 2027. Et à l'appui de cette position, je mobilise à la fois le droit et la politique. Le droit, c'est le procès. Je me suis astreint, non pas à simplement m'en tenir aux réquisitions, mais à suivre jour après jour les auditions, et mieux encore, à relire à la fin, dans leur continuité, les auditions et relire les comptes rendus qui en ont été faits. Alors, je prends celui de Laurent Valdiguier, que Natacha Polony connaît bien, mais les autres chroniqueurs judiciaires étaient sur le même ton. Ça a commencé par Fernand Le Rachinel, qui est un vieux compagnon de Jean-Marie Le Pen. Naufrage. Nicolas Bay, embrasse coulée. Julien Odoul, exemple chimiquement pur d'emploi fictif, en grande difficulté. Marine Le Pen, échec et mat magistral. Bruno Goldisch, accablant. Nicolas Crochet, l'expert comptable, au supplice. Valéran de Saint-Just, le trésorier, acculé. Dans tout procès, il y a une dynamique. Et la dynamique de ce procès a été accablante, parce que le dossier est accablant. Deuxième point sur le droit, les réquisitions. Elles ont été en réalité très subtiles. En apparence, il y a eu des bonnes nouvelles. Il y a eu des bonnes nouvelles du parquet. Il y a eu une bonne nouvelle au départ, qui était la réduction du périmètre du délit. Et puis, à l'arrivée, la réduction de 1 an au lieu de 2 de la prison ferme. Et surtout, l'absence, ça a été beaucoup relevé, l'absence d'exécution provisoire. En réalité, je crois que ces réquisitions sont catastrophiques pour Marine Le Pen. Notamment parce qu'il y a une demande de peine d'inéligibilité à nouveau de 5 ans. Et c'est là, je termine sur le droit là-dessus, où il faut regarder de près les effets du pourvoi. D'un pourvoi en cassation de Marine Le Pen après l'appel. Contrairement à ce qu'on a beaucoup entendu, ça ne suspend pas l'inéligibilité. Parce que le code de procédure pénale dit que le sursis à exécution, le sursis à exécution de l'arrêt de la cour d'appel lorsqu'on se pourvoit, mais la jurisprudence de la cour de cassation dit que le jugement du tribunal correctionnel, donc de première instance, lorsqu'il est assorti de l'exécution provisoire,
ce qui a été le cas,
continue de s'appliquer. À cela s'ajoute le dernier élément, c'est que si Marine Le Pen se pourvoit en cassation, ça nous ramène au mieux au début de l'année prochaine pour que la situation soit clarifiée. Et c'est là où on en vient à la politique.
Elle-même ayant dit qu'elle ne serait pas candidate, elle n'avait pas le temps de le faire.
Et c'est là où on en vient à la politique. Marine Le Pen a déclaré qu'elle prendrait sa décision à l'été. Les risques politiques sont forts, qu'elle continue d'être dans l'ambiguïté, parce qu'une campagne, ça s'organise, et parce qu'une candidature, ça se prépare à la fois psychologiquement, ça se prépare politiquement. Et donc, sauf miracle, le miracle, ça serait quoi ? Ça serait que dans le jugement de la Cour d'appel, non seulement il y ait une peine d'inéligibilité inférieure à 2 ans, mais que, de surcroît, la peine de prison ne soit entièrement avec sursis pour lui permettre de faire campagne. Autant dire que je crois que ça relève du miracle.
Natacha, vous partagez cette idée de miracle. Et puis, peut-être la différence quand même entre Marine Le Pen et d'autres candidats, c'est qu'elle est déjà très connue, une campagne courte serait pas forcément impossible. C'est pas Kamala Harris, par exemple, aux États-Unis. Une campagne courte, d'accord, mais elle a déjà été candidate plusieurs reprises. On sait qui elle est, on sait son programme. Voilà,
ça nuance un petit peu. Je reprends la question que vous avez posée à Gilles tout à l'heure, cher Thomas, à savoir Marine Le Pen risque-t-elle de ne pas être candidate ? Qu'est-ce que ça changerait pour le RN ? Mais le RN s'est préparé. En fait, les choses sont déjà jouées. C'est-à-dire que tout a été organisé pour mettre Jordan Bardella sur orbite, et Marine Le Pen a de fait acté que, comme le disait Gilles, il faudrait un miracle pour qu'elle soit candidate. Et c'est quelque chose de très intéressant. Je ne reprendrai pas, puisque Gilles l'a très bien fait, le récit de ce procès en appel, parce qu'en effet, le dossier est toujours le même et que ce dossier est accablant, sur le fond. En revanche, ce qui est extrêmement intéressant, c'est ce que ça nous raconte sur les rapports entre les politiques et la justice. Parce que le Rassemblement national, comme tous les prévenus politiques, a essayé de faire traîner au maximum ce dossier par absolument tous les recours possibles, au point de se retrouver piégé par le calendrier, parce que c'est ça qui est en train de se jouer. En revanche, il faut bien tout de même admettre que c'est la décision de la juge de première instance d'appliquer l'exécution provisoire qui va de fait aboutir à ce que Marine Le Pen ne puisse pas être candidate. Parce que c'est bien cette décision, alors même qu'on voit que le parquet en appel ne requiert pas l'exécution provisoire, c'est-à-dire qu'il peut y avoir débat sur la nécessité d'une exécution provisoire, on le voit bien, c'est en effet un choix de la juge, eh bien, cette exécution provisoire est bien le point qui empêche Marine Le Pen d'être candidate, puisque c'est elle qui a justifié l'accélération du calendrier, le fait que l'appel arrive plus tôt, que la cassation arriverait plus tôt, et que donc Marine Le Pen, quoi qu'il arrive, se retrouve coincée. Donc c'est de la faute du Rassemblement national, mais il y a eu aussi cet élément qui me semble important. Ça ne signifie pas qu'il faille justement considérer que tout cela est un scandale démocratique. Ça nécessite quand même de se poser la question sur les choix des députés quand ils ont voté pour cette exécution provisoire parce qu'on était dans le contexte de l'affaire Cahuzac et que tout le monde s'est emballé sur quelque chose qui pose de réels problèmes. Problème.
Le Rassemblement national, le premier d'ailleurs.
Mais bien sûr, le Rassemblement national,
en fait, demandait l'inéligibilité à vie.
Ils ont toujours, soyons clairs, le Rassemblement national a toujours instrumentalisé cette demande légitime des citoyens d'une forme de transparence pour garantir que les politiques ne soient pas corrompus. Ça se retourne contre lui. Je termine par un point, ça a une implication politique tout de même. Pourquoi ? Parce que Bien sûr, je l'ai dit, Jordan Bardella est sur orbite. Tous les sondages nous expliquent à quel point il caracole, il serait même un meilleur candidat que Marine Le Pen. Jordan Bardella n'est pas Marine Le Pen et il n'est pas le même candidat que Marine Le Pen. Contrairement à ce que nous dit le RN, Marine Le Pen dit « ce sont les idées qui comptent », mais les idées ne sont pas exactement les mêmes. Et la façon dont elle s'incarne les modifie. Jordan Bardella est en train de préparer une campagne dans laquelle, sur les questions économiques, il est en train de s'aligner, par exemple, sur le discours du MEDEF, sur l'idée que ce qui plombe l'économie française, ce sont les normes et la compétitivité, c'est-à-dire une vision, j'allais dire, très droite libérale d'il y a 30 ans, qui est assez frappante parce que ce n'est pas la position de Marine Le Pen.
Est-ce qu'il y a de la friture sur la ligne et est-ce que l'avenir du RN est aussi entre les mains de divisions, plutôt à l'aube de divisions idéologiques majeures, Gilles ?
De la friture sur la ligne, en réalité, je trouve pas tellement. Et il faut reconnaître au Rassemblement national une gestion de ce moment qui est un moment compliqué.
Oui, tous les adversaires espèrent ça, en fait, et on ne le voit pas.
Bien sûr, et dans l'ensemble, ça ne s'est pas passé. Deuxième point, je ne sais pas exactement quelles sont les différences entre Jordan Bardella et Marine Le Pen. Il est possible que Natacha ait raison, mais en réalité, pour l'instant, on ne sait pas exactement. Et de ce que l'on a vu des amendements qui étaient déposés par les députés du Rassemblement national à l'Assemblée nationale, ce n'était pas si clair que ça non plus. Dernière remarque, là aussi je prends une position tranchée. Je pense que si, à la fin, c'est Jordan Bardella qui est candidat, je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour le Rassemblement national. C'est une opinion dissidente parce qu'aujourd'hui, les sondages, à la fois les sondages d'intention de vote, les sondages d'image comparée de Jordan Bardella et Marine Le Pen, ceux qui ont été encore une fois publiés cette semaine, disent exactement l'inverse. Mon intuition est que demain, dans une campagne qui aura pour caractéristique d'être une campagne longue, c'est les campagnes où le président de la République sortant n'est pas candidat, c'est des campagnes très longues, c'est des campagnes qui vont, dont là, disons, une pré-campagne va commencer après les municipales et va s'emballer
après l'été.
Donc c'est des campagnes de 6 mois et que dans une campagne longue et dure, l'inexpérience de Jordan Bardella dans le contexte, et notamment dans le contexte international, peut se révéler une faiblesse, mais on verra.
France Inter, le grand face-à-face, le duel.
J'ai appris les crimes abominables commis par lui. Je suis tombé de l'armoire. Comment cet homme si courtois, si charmant, si généreux avait pu être perpétré de pareilles abominations ? Et évidemment, nous avons coupé court avec lui tout aussitôt. Vous l'imaginez bien, j'ai jamais reçu un centime de lui, pas plus que ma fille Caroline n'a reçu un centime de lui.
Jack Lang, ancien ministre de la Culture de François Mitterrand, aujourd'hui à 86 ans, à la tête de l'Institut du Monde Arabe et empêtré, comme beaucoup d'autres, dans les dossiers Epstein, où son nom apparaît plus de 600 fois. Je précise évidemment qu'il bénéficie, comme tout le monde, de la présomption d'innocence, mais il sera pourtant demain convoqué par le Quai d'Orsay pour le pousser à la démission de l'Institut du Monde Arabe. Le cas Lang est, je crois, emblématique de ces élites éclaboussées par la révélation de 3 millions de documents du dossier Epstein par la justice américaine il y a une semaine. Natacha, est-ce que cette affaire n'est pas un combustible, un carburant exceptionnel au discours anti-élite, voire ce qu'on appelle parfois au discours populiste?
Alors, je dirais que la façon de poser la question est assez intéressante parce que c'est en effet la question qui a dominé pendant une semaine avec une évolution. C'est-à-dire qu'en gros, cette déclassification a provoqué un emballement absolument effarant sur les réseaux sociaux, très rapide.
Il y a tout,
Oui,
des inconnus, des mystères, du sexe, de l'argent, des crimes.
Et il y a eu, évidemment, quand je dis emballement, des choses absolument ridicules qui ont été racontées. On voyait surgir sur les réseaux sociaux des fausses informations, des interprétations absolument fallacieuses et tout ce qu'on veut. Sauf qu'au début, il y a eu un silence gêné de la part des médias traditionnels. Et il a fallu, petit à petit, tout ça s'est passé en quelques jours, mais les premiers jours, on a senti cette gêne dans les rédactions. justement sur le thème « Faut-il en parler ?» dans la mesure où tout cela relève du complotisme. Et, tout. Et il a fallu, beaucoup, à mon avis, beaucoup trop de temps pour que les journalistes se disent qu'il était au contraire nécessaire de traiter ces questions-là, que certes c'était crapoteux, que certes ça nécessitait de remettre à plat toutes les vérités, d'aller se plonger dans ces dossiers pour dire ce qui relevait de la vérité et ce qui relevait de l'interprétation. Et je pense que ce temps a été beaucoup trop long et que tout cela est dommageable. Ce n'est pas parce qu'il y a des complotistes qu'il n'y a pas de complot, comme on dit en général, et donc ce n'est pas parce qu'il y a des complotistes qu'il n'y a pas cette affaire dans laquelle on entend très bien, par exemple, le malheureux Jack Lang, enfin quand je dis malheureux, c'est entre guillemets, nous expliquer, enfin commencer sa communication par des affirmations qui sont pour le moins éloigné de la vérité et se retrouver petit à petit au cours de la semaine coincé, mais en tout cas en train d'expliquer que cet homme charmant et généreux, voilà, qui pouvait se douter qu'il avait commis cela, d'abord, c'était su, et deuxièmement, qu'un ancien ministre français, et j'en viens au point qui me semble le plus intéressant, qu'un ancien ministre français trouve normal de se faire prêter un jet privé, ce genre de choses, c'est ça qui, finalement, au-delà des horreurs pratiquées par Epstein, et que je veux bien croire que beaucoup de gens ne mesuraient pas ou ne connaissaient pas, voilà, qui sont apparus au fur et à mesure. Au-delà de ça, je pense que ça raconte le rapport de certains à l'argent, au réseau, puisque c'était là la force de ce personnage, extrêmement menteur, manipulateur, séducteur, et qui donc fonctionnait comme ça parce qu'il savait qu'il avait une prise. C'est tout cela qu'il va falloir regarder en face.
Mais ce qui est troublant, Gilles, quand on parle des élites et qu'on dézoome évidemment du cas de Jack Lang et de sa fille Caroline, c'est qu'on a toutes les élites qui sont ici concernées, des élites intellectuelles, des élites culturelles, des élites économiques, des élites politiques, de droite comme de gauche. Vous avez Noam Chomsky, icône de la gauche radicale, qui voisine avec Peter Thiel, l'idéologue de Donald Trump. Alors, ils ne sont pas tous au même endroit, au même niveau, mais le point de convergence est le même, Epstein.
Vous avez raison, et c'est vrai aux États-Unis et c'est vrai dans le monde entier.
Et en Europe et en France en particulier.
Depuis la publication du dossier Epstein, le monde ressemble à ce personnage de Romain Gary dans Au-delà de cette limite, qui disait « Je le connaissais très peu, mes rapports avec lui consistaient surtout à l'éviter ». Alors, ils le disent avec beaucoup moins d'élégance, mais ils le disent quand même sous cette forme-là. Natacha parlait de ce moment un peu suspendu auquel la presse a été confrontée, en traité ou pas. Et je dois dire avoir moi-même éprouvé une forme d'inconfort et même de malaise. Alors, pas seulement parce que le dossier judiciaire est ignoble, puisqu'il s'agit quand même de viols sur mineurs répétés pendant des années, mais parce que le dossier global est monstrueux. On se sent écrasé par le volume, 3 millions de pages, 2000 vidéos, 180 000 photos, et aussi méfiant face au tri. Il y a des choses en excès, des documents qui sont là 10 fois, des documents qui ne devraient pas y être, notamment sur les victimes, défauts. Il y a des choses en défaut, des choses qui ont été caviardées, des documents qui n'y figurent pas, donc il y a ce malaise-là par rapport à ce dossier et au risque de précipitation sur ce qu'il y a de plus spectaculaire. Ce que j'aimerais, parce que ça ne fait que commencer, c'est un vieux dossier, mais là qui ne fait que commencer. Et il faut exploiter ces documents. Et c'est d'abord le travail des journalistes. Et moi qui suis autour de cette table seule à ne pas être journaliste, je dis vive les journalistes. C'est une journaliste qui a été à l'origine de cette affaire, une journaliste de la presse locale du Miami Herald. Et ce sont les journalistes, les consortiums de journalistes, compte tenu de l'ampleur des travaux, qui vont devoir faire ce travail de bénédictin qui est long, qui est fastidieux, minutieux, de déplier le dossier. Pour comprendre et éclairer ce réseau, presque plus, le mot réseau en fait est un mot qui a beaucoup de sens différents. Le mot network en anglais, je trouve, est peut-être plus éclairant que Epstein s'était construit dans le monde et aux États-Unis. Et la question est de savoir, c'est un réseau de quoi ? Et c'est ça qui doit être déplié, c'est qu'est-ce qu'il a dedans est illégal, et pas seulement sur les délits sexuels, mais aussi potentiellement sur des délits financiers. Qu'est-ce qui est immoral? Ça peut être les largesses, les vacances que l'on accepte, les messages de soutien ou les conseils que l'on prodigue. Et qu'est-ce qui est anodin? Des rendez-vous pour un repas, pour une discussion, et parfois même fallacieux, parce que Natacha disait Epstein était un menteur qui s'inventait aussi des intensités de relations qui n'existaient pas.
Oui, Cédric Villani, d'ailleurs, se retrouve au 22 avenue Foch chez Epstein parce qu'il l'a fait venir en lui parlant de ses amis mathématiciens. Et il ne sait même pas ce qu'il fait là. Il le raconte avec beaucoup de sincérité dans Libération.
Voilà, et donc je termine d'un mot, sauf pour quelques personnalités dont les mensonges sont d'ores et déjà patents ou dont les comportements sont manifestement problématiques. On a vu ce qui s'est passé par exemple avec Peter Mandelson au Royaume-Uni. La présence
commissaire européen
dans le dossier Epstein ne dit rien.
Elle dit rien, mais elle provoque.
Mais elle provoque beaucoup. Et donc, il va falloir travailler. Et c'est pas seulement exploiter le dossier, c'est faire une enquête à partir des données, à partir de... il va falloir tirer des fils.
Mais le travail commence.
Oui, c'est par exemple le travail qu'a fait Mediapart sur les liens entre la famille Lang et Epstein. C'est ce travail-là qu'il faut faire, c'est-à-dire en partant des données qui sont là, aller enquêter, comprendre les liens, interroger des banquiers, des choses comme ça. Et c'est d'autant plus nécessaire que, je reviens sur le récit, j'allais dire médiatique, il y a eu donc la première discussion qui était « c'est une affaire de complotistes, ça ne nous intéresse pas ». Il y a eu ensuite ce travail de quelques-uns qui a réellement été fait et qui est de qualité. Et on voit maintenant le discours sur le thème « Epstein était un agent russe ».
Oui.
Qui, là aussi, a des allures, on va dire, de facilité, dans la mesure où, visiblement, Jeffrey Epstein, et c'est une partie importante du sujet, avait des liens avec différents services secrets, ce qui, pour un personnage comme celui-là, n'est guère étonnant dans la mesure où il avait autant d'entre-gens. Mais, du coup, il devient assez surprenant de classer l'affaire en expliquant que tout cela ne relève que des services de renseignement russes. Et donc, là aussi, il va y avoir un travail de compréhension, mais de compréhension qui s'extrait de l'idéologie la plus facile. Parce que ce serait tout de même dommage. Alors, on a bien compris je crois que ça date d'hier ou d'avant-hier, il y a bien une manipulation russe pour essayer de faire croire qu'Emmanuel Macron est dans les dossiers. Alors que ce qu'on a pour l'instant dans les dossiers Epstein, c'est une discussion entre Jeffrey Epstein et un personnage sur Emmanuel Macron, et Epstein se vante qu'on lui pose des questions et qu'on lui demande des idées. On sait, encore une fois, on vient de le dire, à quel point Jeffrey Epstein, disons, augmentait un petit peu son influence et expliquait qu'il était très lié avec des gens avec qui, de fait, il n'avait eu que 2-3 rencontres. Donc, tout cela va devoir être éclairci, mais il faut le faire et il ne faut pas classer cela pour éviter de regarder, encore une fois, ce qui est important, à savoir le fonctionnement des élites politiques et leur capacité à éviter d'être justement soumises à des ingérences et à des manipulations.
Pas que les élites politiques.
Non, mais élites... quand ce sont les politiques, c'est important.
Ouais. C'est intéressant, hein, en 10 minutes sur Epstein, vous n'avez pas prononcé le mot de Donald Trump. Et d'ailleurs, certains considèrent que c'est l'un des enjeux aussi, que le département de justice est inondé de millions de pages pour précisément noyer la responsabilité de celui dont on parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les dossiers Epstein.
Oui. En fait, je souris parce que dans mon ancienne vie, lorsque je me souviens quand j'étais au cabinet à Bercy, une des techniques traditionnelles de ce ministère était, lorsque les parlementaires demandaient des documents, était de les inonder devant une masse de documents qui était tellement importante qu'elle en devenait inexploitable.
CQFD.
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
Allez, on termine ce duel en cette semaine de journée mondiale contre le cancer. C'était le 4 février dernier. Fleur Berthaud, la fondatrice du collectif Cancer Colère, était à cette occasion l'invitée de la matinale de France Inter, dans le contexte, bien sûr, du retour de la loi Duplon, qui vise à réintroduire les néonicotinoïdes, ces insecticides dangereux pour la santé.
réintroduire un néonicotinoïde dont tous les spécialistes disent qu'il est hautement toxique pour la santé humaine. C'était appuyé sur un détonateur de la maladie. Ça allait générer des centaines et des milliers de malades. Et je ne comprenais pas comment des parlementaires pouvaient s'allier pour voter un texte. Le nombre de malades du cancer a doublé depuis 1990 et que les causes environnementales représentent vraisemblablement 50% des cancers aujourd'hui. Donc le cancer a des causes politiques puisqu'on a besoin que les élus de la République nous protègent de la violence chimique. Ça ne va pas éradiquer le cancer de la surface de la planète, mais ça va le diminuer, ça va l'endiguer. On ne va pas pouvoir régler l'épidémie de cancer si on vote des lois et vous dites... qui favorisent les pesticides.
Gilles, le cancer est politique, nous dit Fleur Bretot, qu'en pensez-vous ?
Alors, à l'occasion de cette journée mondiale, il y a eu, comme à chaque fois, beaucoup de rapports internationaux, beaucoup d'études, beaucoup d'annonces qui ont été faites et qui permettent, je crois, de savoir un peu mieux de dire ce que l'on sait, oui, ce que l'on fait et ce que l'on peut espérer. Dans ce qui relève du savoir, et pas, je réagis à ce qui a été dit dans le son qu'on vient d'entendre, on voit la centralité de cette maladie dans le nombre de personnes touchées. C'est vrai, dans le monde, hein, 19 millions de cas en 2022. En France, 430 000 cas en 2023, qui est la dernière année sur laquelle on a des chiffres, et 4 millions de Français qui l'ont ou qui l'ont eu. Première cause de décès prématuré. Et ce paradoxe où la France est le pays le plus touché au monde et où le taux de mortalité est le moins élevé. J'ajoute un dernier point de l'OMS qui dit près de 40% des gens vont être touchés par le cancer à l'avenir. Donc on voit la centralité de cette maladie. Et deuxième chose sur ce que l'on sait, sur les causes, et j'en viens à ce que je disais.
Les cancers environnementaux.
Avant d'en venir aux cancers environnementaux, il y a ce que les spécialistes appellent les cancers modifiables, c'est-à-dire ceux qui sont liés à notre mode de vie et qui, globalement, représentent aux alentours de 40% des cas de cancer. Mais là-dedans, vous avez deux catégories différentes. C'est pour partie les causes auxquelles on s'expose soi-même. C'est la consommation de tabac, d'alcool, c'est l'exposition au soleil, c'est la sédentarité, pour partie l'obésité. Et puis, les causes auxquelles on est exposé, et c'est tout ce qui est environnemental, et là aussi l'alimentation qui est un peu des deux côtés. Ce qui explique, par exemple, ces causes environnementales, l'explosion en 30 ans des cancers du pancréas, x4 chez les hommes, x5 chez les femmes. Ça, c'est sur ce que l'on sait. Maintenant, sur ce que l'on fait, qu'avons-nous fait ? On a fait beaucoup de choses. Quand même, il faut quand même de temps en temps aussi le dire, à la fois sur le traitement, 6 cancers sur 10 qui se soignent, sur la prévention, on a fait un peu plus aussi. On pense par exemple, vous vous souvenez du débat sur la vaccination dans les collèges contre le papillomavirus. Oui. C'est vrai, la généralisation de l'interdiction du tabac dans les lieux publics. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire beaucoup encore. Il y avait une tribune du président de la Ligue contre le cancer cette semaine qui soulignait que les dépenses de santé consacrées à la prévention ne représentent que 2% du total. Donc, très peu. Et on est, en France pour le coup, encore en retard, et bien en retard, sur tout ce qui est le dépistage. Selon les cancers, par rapport à la moyenne européenne, on est de 8 à 15 points en dessous de la moyenne, alors qu'il y a des cancers qui pourraient être quasiment éliminés, par exemple le cancer du col de l'utérus. Je termine par les espoirs. Il y a une espèce, c'est très frappant, année après année, quand on regarde les débats au moment de cette journée mondiale, le mythe de la fin du cancer. Oui. Bon, et malgré tout, il y a des progrès spectaculaires, c'est vrai sur le curatif avec des thérapies qui sont de plus en plus ciblées, et c'est vrai aussi, non pas seulement sur le préventif, mais même sur la médecine prédictive. Et on a beaucoup parlé ici des dangers de l'IA, il y a aussi des progrès qui peuvent être liés à l'IA, notamment le fait qu'en lisant de manière de plus en plus fine le génome, en lisant la mutation d'un gène, elle peut anticiper les risques de cancer que vous aurez. Donc voilà, il y a un peu les deux, mais si Je termine par cette dernière phrase. Si on, et ce qui est le cas, on traite beaucoup mieux les cancers, donc il y a beaucoup plus de gens qui vivront en ayant eu un cancer, on est très en retard sur l'accompagnement des personnes touchées, et ça, ça permet d'éviter les risques de récidive.
Accompagnement médical, mais aussi accompagnement social, accompagnement psychologique, tout ça, évidemment, est important pour les malades du cancer.
Natacha. Je prolonge cette réflexion par deux remarques. La première, c'est que dans le son que l'on entend, il y a quelque chose qui me gêne profondément.
Oui.
Parce que on parle de l'interdiction de l'acétamipride. L'acétamipride a été interdite en France uniquement. Pas du tout dans le reste de l'Europe et encore moins dans le reste du monde. Nous sommes dans un marché unique.
Ce qui justifie d'ailleurs
ouvert.
La loi Duplon, avec
voilà.
L'idée de, mais en concurrence...
Tout simplement, il est évidemment important d'interdire des pesticides dangereux, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que contiennent les fruits et légumes, les produits oui. que nous avons dans nos assiettes,
que
nous trouvons dans les supermarchés. Mmh. Donc, c'est sans doute très bien de se donner bonne conscience en interdisant à nos producteurs, à nous, des pesticides. Mais si on maintient la libre circulation des produits qui en contiennent, je ne vois pas bien en quoi nous avons progressé. Ça, c'est le premier point. Et donc, ce qui doit être pensé, c'est ce que contiennent les aliments que nous ingurgitons. Et j'en viens au deuxième point, donc. Le député MoDem Richard Ramos s'est battu oui. pendant des années contre les sels nitrités dans le jambon. Parce que là, ce sont des cancers qui sont avéré. Il y a d'ailleurs eu, et c'est très intéressant, là, au début du mois, une étude de l'INSERM, du docteur Mathilde Touvier, sur les conservateurs alimentaires et qui démontre que les additifs et les conservateurs sont associés à de plus grands risques de diabète et de cancer. Cette fois-ci, c'est démontré pour les additifs alimentaires. Le nitrite de sodium, c'est le E250 hein, sur les, mm-hmm. dans les, de, sur les
notices
d'ingrédients. Non, mais il faut le savoir. Mm-hmm. Bon, ça augmente d'un tiers le risque de cancer de la prostate, les cancers du pancréas, etc. Les députés ont fini, après des années, par voter l'interdiction des sels nitrités, mais ce n'est pas passé au Sénat. Et les sels nitrités, à l'échelle européenne, sont interdits dans l'alimentation pour animaux, parce qu'on protège les animaux, mm-hmm. mais pas les êtres humains. Donc, et c'était un des derniers grands combats d'Axel Kahn. J'ajoute qu'un nouveau combat du député Richard Ramos, c'est sur l'hexane dans les huiles. Qu'est-ce que c'est que l'hexane ? C'est un produit qui, en fait, permet d'augmenter la quantité d'huile qu'on arrive à obtenir quand on presse un noyau d'olive, quand on presse... Voilà. Donc, ça permet de, en fait, de faire un petit peu plus de profit. Eh bien, l'hexane n'est pas considéré comme un additif alimentaire, donc n'est pas contrôlé. C'est un auxiliaire alimentaire. Vous apprécierez quand même le jeu sur les mots. Le Richard Ramos a publié le 28 janvier un rapport parlementaire là-dessus, parce que c'est donc l'hexane est un dérivé du pétrole. Évidemment, il n'y en a pas dans les huiles bio ou dans les très rares huiles à première pression à froid, c'est-à-dire que ce sont les pauvres qui consomment du pétrole, un résidu de pétrole, qui est interdit à l'inhalation comme produit, mais qu'on peut mettre donc dans les assiettes, ça ne pose pas de problème. Tout cela pour dire que quand on parle des cancers, il y a en effet des comportements individuels, le tabac, etc. Mais il y a surtout des choix politiques qui sont liés à des pressions, à des lobbies. Et là, curieusement, c'est très très difficile de faire prévaloir la science qui pourtant est très claire sur ces sujets-là.
Et on pense bien sûr aux malades qui nous écoutent, à écouter les chiffres de Gilles. Il y a de grandes chances que des gens, ce midi, en nous écoutant, sont aussi en traitement. On leur souhaite évidemment beaucoup de force, beaucoup de courage. Et on pense à eux, à les place au débat du Grand Face à Face.
Le grand face-à-face, le débat.
Bonjour Chantal Jacquet.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes philosophe, professeur émérite de l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et vous venez de sortir ce nouveau livre, Révolution transclasse, une nouvelle théorie de l'émancipation, aux éditions des Presses universitaires de France. 10 ans après avoir forgé le concept de transclasse, vous le creusez dans ce nouveau livre dans lequel vous considérez, peut-être en réponse à ceux qui n'y voient souvent que des itinéraires individuels, non reproductibles, en somme exceptionnels, qu'il peut être au contraire un outil d'émancipation collective. Vous nous direz pourquoi, comment et à quelles conditions. Mais pour commencer, j'aimerais que nous retournions dans le confort des Trente Glorieuses, où la dimension collective des transclasses était un objectif partagé. On appelait cela à l'époque l'ascension sociale, et en 1967, Pierre Bourdieu s'y arrêtait lors d'une émission de la radio publique consacrée aux employés.
Les employés constituent une catégorie qui se définit fondamentalement par ce qu'elle n'est plus et ce qu'elle n'est pas encore. C'est-à-dire une catégorie définie par ses aspirations à devenir autre chose. Ces aspirations s'expriment dans le domaine de la scolarisation et de la culture. En effet, les employés sont en général des gens qui sont entrés soit dans la fonction publique, soit dans le privé, par ce que l'on appelle la petite porte. Et il est normal que les employés aspirent pour leurs enfants à voir s'ouvrir la grande porte. Et la grande porte, c'est exactement l'université.
Alors c'est un discours d'hier, hein. La grande porte, l'université, malheureusement c'est moins le cas aujourd'hui. On ne parlait pas encore de transclasse, mais plus sobrement, on l'a entendu, d'ascension sociale. Bourdieu parle des aspirations des classes moyennes à devenir autre chose. Est-ce que c'est pas déjà ça, du transclassisme, Chantal Jacquet ?
Alors c'est une première forme de transclassisme qui consiste à changer de classe sociale, ouais. Mais la question qu'on peut se poser face à cela, c'est que ce qui constitue une forme de non-reproduction par rapport à son milieu d'origine, ouais. Est-ce qu'au fond, ça change fondamentalement l'ordre social ? Est-ce que cette non-reproduction n'est pas la ruse de la reproduction ? Autrement dit, est-ce que le fait que 3 ou 4 personnes puissent sortir de leur misère initiale, ça modifie profondément le sort de toutes celles qui restent. C'est là la vraie question et c'est la raison pour laquelle il me semble qu'il faut aller plus loin que ces passages individuels.
Mais à l'époque, ce n'est pas des passages individuels, c'est des cohortes entières. Les classes moyennes progressent régulièrement, toutes les études le montrent bien. Ce n'est pas 3-4 personnes. Ça, 3-4 personnes, c'est plutôt... Pardon, mais j'ai l'impression que c'est plutôt les cas exceptionnels des années 80-90 qu'on a beaucoup mis en avant, non, à l'époque ?
Alors, il faut quand même regarder que le fait que depuis la Seconde Guerre mondiale, oui. Ce qu'on appelait les Trente Glorieuses, ont effectivement permis des trajectoires sociales différentes, mais statistiquement, parce oui. que les chiffres sont importants, eh bien, il n'y a pas de grandes modifications. En France, c'est 7 enfants d'ouvriers, d'employés sur 10 qui connaissent la même trajectoire sociale que leurs parents et 7 enfants de chefs d'entreprise ou de la petite bourgeoisie qui connaissent la même trajectoire sociale. Et ça n'a pas varié. Il y a un petit peu plus, un pourcentage de femmes un peu supérieur à, aux années 1945, mais globalement, c'est stable. Donc, il faut distinguer le sentiment qu'on peut avoir oui. d'une progression sociale ou du déclassement avec l'effet objectif. Donc, ce taux de reproduction est identique.
On va parler de ressenti, je pense, avec Gilles, parce que c'est vraiment au cœur de son travail et aussi de ce que vous nous dites là. Pour qu'on soit clair sur la définition même d'un transclasse, est-ce que vous pouvez clairement nous définir ce que ça veut dire et ce que ça ne veut pas dire ? Quand on dit transclasse, parfois on dit un peu tout et son contraire. Pour vous, ça veut dire quoi, Chantal Jacquet, être transclasse ?
Eh bien, précisément, si j'ai défini ce concept, c'est à cause de la confusion qui régnait. Oui. Pour être qualifié de transclasse, d'abord, ce n'est pas une identité, ça désigne un processus de passage d'une classe sociale à l'autre, processus qui n'est pas linéaire, qui peut impliquer des allers-retours, qui peut se faire de façon de traverse, processus de passage qui peut désigner des individus ou des groupes qui passent d'un milieu dominé à la petite bourgeoisie ou la classe dominante, et l'inverse. C'est-à-dire que ce sont des traversées de classe, et je me suis intéressée aux causes qui les produisaient, puisque ce sont des phénomènes rares, hein. Ce sont des phénomènes sur lesquels il faut se pencher, et on s'aperçoit que ces phénomènes sont aussi des productions collectives, c'est-à-dire on ne passe pas tout seul, on est mis à la porte ou porté par son milieu, on est sollicité par la classe dominante qui a besoin de main-d'œuvre, on part aussi parce que on n'a pas sa place à raison des convictions religieuses, des orientations sexuelles, etc. Donc il faut penser ces passages. Donc un transclasse, c'est quelqu'un qui a traverser les classes, hein, dans un sens ou dans l'autre, ce qui implique une reconfiguration de l'identité, bien évidemment, un entre-deux. Hein. Mais on ne peut pas dire qu'on est transclasse parce qu'on a eu un grand-père ouvrier, parce que oui. si le père est ingénieur ou la mère est pharmacienne, par exemple, et que on vient soi-même faire des études et être dans la classe moyenne, on ne peut pas se qualifier de transclasse. Alors, on s'en sert souvent comme d'un instrument pour se propulser ou
se valoriser.
Oui. Mais il faut, pour être qualifié de transclasse, connaître ce processus de passage où on est obligé de reconfigurer son identité.
Et est-ce que dans ce passage, on ferme la porte derrière soi ?
Le problème, c'est que ce passage, il est peut-être autorisé par la famille, par les institutions, par des aides économiques, mais il est singulier, il est individuel. On ne referme pas forcément la porte derrière soi, au sens où il n'y a pas nécessairement rupture, rejet du milieu, ça peut arriver,
oui. Hein,
mais le fait est que ça ne change pas fondamentalement la condition de ceux qui restent. Et voilà pourquoi ce sont ces passages qui sont mis en avant comme étant exceptionnels, qui sont mis en vitrine, eh bien, finalement, ne changent pas fondamentalement la condition de ceux qui n'ont pas pu faire ce passage.
Alors, on va voir avec Ghislaine Natacha à quelles conditions ça peut servir l'émancipation collective, mais un mot peut-être d'égo-sociologie, c'est votre cas à vous. Est-ce que vous vous considérez, vous, Chantal Jacquet, transclasse? J'ai lu que vous aviez grandi dans un milieu très défavorisé, dans un hameau savoyard. Vous avez terminé professeur à la Sorbonne. Est-ce que vous êtes une expression même du transclassisme?
Je peux en être une expression. Alors, je précise bien que quand on dit être transclasse, ça ne définit pas une identité.
Ça peut, hein, pour certains, ça en est une.
C'est une modalité d'existence. Ouais. Hein, de la même manière que être homme, femme, blanc, noir, c'est une modalité d'être, oui. Mais ça ne définit pas l'être tout entier. J'insiste sur ce point parce que ce n'est pas une carte de visite, c'est un processus que j'ai traversé, effectivement. Et c'est la raison pour laquelle il m'a semblé important de comprendre les causes et les effets que ça produit et de savoir quel enjeu politique et quelle conclusion politique on peut en tirer.
On va creuser ça. Gilles.
Alors, moi j'ai moins lu votre essai comme un livre sur les transclasses, qu'il n'est pas vraiment ou pas seulement, c'est-à-dire qu'on n'y trouve pas une analyse très détaillée de ce qu'est la réalité, l'ampleur de la mobilité sociale en France relativement à d'autres pays, ou contrairement à beaucoup de livres, le parcours individuel, qu'est-ce que ça fait aux individus de passer d'une classe à une autre. Mais là, je trouve la singularité de votre travail est d'enchâsser l'analyse sur les transclasses dans l'analyse des classes sociales plus largement. Classe sociale entendue non pas comme une description sociologique, mais dans son sens plus marxiste, dans son sens politique de moteur de l'action. Et ce faisant, la question qui est presque une question préalable que je me suis posée en vous lisant, c'est quelle est pour vous aujourd'hui la pertinence et la centralité de la notion de classe au sens où vous l'entendez comme moteur de l'action, dont on a le sentiment que les contestations internes sont aujourd'hui multiples avec les mutations du monde de travail, et les contestations externes avec l'émergence de nouveaux combats identitaires viennent aussi leur faire perdre de la centralité. Donc c'est un peu ma question préalable, c'est quoi la pertinence, la centralité des classes sociales aujourd'hui ?
Chantal Jacquet.
Alors, vous avez tout à fait raison d'insister sur le fait que ce concept de classe sociale est à redéfinir, et il est clair que la notion de classe peut être entendue comme une catégorie sociale en sociologie, on va parler de classe moyenne, etc., ce que Marx à son époque faisait aussi, mais ce concept prend une dimension politique à partir du moment où on pense des relations. La classe, ça n'existe pas en soi, c'est toujours classe vis-à-vis d'une autre, et c'est la raison pour laquelle c'est un concept relationnel. Et cette relation, elle exprime des rapports, hein, des rapports qui peuvent être des rapports conflictuels, et le conflit n'est pas permanent. Et il y a des moments où les luttes de classe sont mises sous le boisseau, mais ce conflit ou ce rapport de force, il tient à la position dans la société, c'est-à-dire dans le fait que on dispose des moyens de production et on n'a pas d'autres ressources en face, pas d'autres ressources pour vivre que de vendre sa force de travail. Donc c'est cette relation-là qui est à penser, hein, et qui reste essentielle. Alors évidemment, la classe sociale, elle se redéfinit parce que c'est pas toujours les mêmes qui vont se retrouver dans la position, par exemple, d'être dans la classe dominée. Aujourd'hui, la classe ouvrière a en grande partie disparu, ce qui correspond à ce que au XIXe siècle, on appelait le prolétariat, les gens qui vendent leur force de travail moyennant salaire. Ben, ça serait plutôt les petits employés, les précaires, les femmes qui sont à temps partiel, les immigrés. Donc, les classes se reconfigurent en fonction de la main-d'œuvre. Mais ce qui reste important et décisif, et ce que montre bien justement le passage transclasse, c'est que les classes sont des réalités dans leurs relations, c'est-à-dire le fait qu'il y a des conflits, des tensions qui font que pour le dire vite, on appartient à un monde dominé, hein, dans lequel on dépend effectivement du bon vouloir d'un chef d'entreprise ou d'un patron ou ou d'une firme. Et puis, on est dans un monde dominant où on dispose des ressources pour vivre, et même on n'est pas obligé de vendre sa force de travail. Donc ça, c'est quelque chose qui est une constante, même si la relation se reconfigure.
Et puis, c'est enchâssé dans des tas de dominations ou de statuts de dominés qui dépassent la question ou qui sont inférieurs à la question purement financière ou de travail. Vous avez cité tout à l'heure le genre, la religion, tout ça, ça fait aussi partie du transclassisme, ces questions-là.
Alors, c'est la raison pour laquelle, dans mon livre, j'ai insisté sur le fait qu'on peut distinguer trois formes de transclassisme. Oui. Le premier, c'est celui que, la première forme, c'est celle que j'ai analysée dans mon livre de 2014, oui. C'est-à-dire le transclassisme entre les classes, interclasses, le passage d'une classe à l'autre.
Voilà. Bon.
Celui-ci, eh bien, je l'appelle conservateur parce que sur le fond, il y a des changements, mais des changements qui font que l'ordre social demeure. Hein.
Et puis, non seulement il demeure, mais il est même préservé par cela.
Il est préservé, c'est-à-dire qu'il faut que quelque chose change pour que rien ne change.
Voilà, hein, le guépard.
Pour le dire assez... La deuxième forme de transclassisme, c'est l'idée qu'on sort des classes sociales, puisque je dis bien que le problème n'est pas de passer les barrières sociales en solo, mais de les abolir pour tous. Ce que j'ai appelé le transclassisme extra-classe, sortir de classe. Mais j'ai tout à fait conscience, et il me semble nécessaire, de revenir là-dessus, c'est-à-dire une fois à supposer qu'un mouvement suffisamment puissant abolisse les classes sociales, ça ne résoudrait pas le problème de toutes les dominations. C'est la raison pour laquelle le transclassisme extra-classe doit s'accompagner d'un mouvement que j'ai appelé supra-classe, aller au-delà des classes, c'est-à-dire prendre en charge toutes les déterminations qui nous oppriment, autrement dit, toutes les formes d'oppression. Alors ça peut être les formes d'oppression patriarcale, ça peut être raciale, ça peut être d'orientation sexuelle, ça peut être aussi le handicap, religieuse, mais on ne peut pas penser l'émancipation si quelqu'un reste enchaîné à des discriminations, et c'est pour ça qu'il faut penser l'articulation entre les luttes, les différentes formes de combat, et cesser cette concurrence parfois entre les luttes pour savoir laquelle a la priorité. À partir du moment où il y a une discrimination, eh bien, on doit la prendre en compte. C'est tout à fait une forme de déni que de dire que c'est plus important de lutter, par exemple, pour les classes, ou pour le climat, ou pour les luttes féministes, que pour le reste. Ça me paraît une forme d'offense à ceux qui sont discriminés dans un autre domaine. Voilà pourquoi mon travail aussi vise à redéfinir ce que c'est que le commun dans une société. Qu'est-ce qui fait qu'on fait société? Et il faut que ces sociétés soient véritablement inclusive, autrement dit, que ceux qui sont les plus discriminés à tout point de vue, eh bien, puissent être entrés dans cette société, puissent prendre leur part et vivre dans cette société dignement, aussi bien économiquement que du point de vue moral, éthique.
Mériez-vous jusqu'à dire que les transclasses individuelles, miraculeux, sont des ennemis au fond, de ce mouvement que vous appelez de vos voeux d'une émancipation collective? Est-ce qu'ils en sont un caillou dans la chaussure, un empêcheur de tourner en rond?
Absolument pas. Cela dépend de la position qu'ils adoptent vis-à-vis du passage. C'est-à-dire, parce qu'on peut se focaliser sur le passage,
oui.
On peut dire que c'est difficile, on peut comprendre les causes qui ont joué. Mais déjà, ces causes, elles ne sont pas strictement individuelles. Donc, il faut sortir de cette notion de mérite, se parer toutes les plumes du pan, alors que ces passages...
Bien, vous visez qui ou quoi, là?
C'est-à-dire ceux qui s'imaginent comme des self-made men ou self-made women, et qui ne pensent ne rien devoir à personne. Mmh. Bon. Ce qui est important, c'est pas tellement le passage, à mes yeux, c'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire, comment on se positionne. C'est pas le passage, mais la position qu'on prend. Et là, à ce titre-là, je ne dis pas tous les transclasses, puisque certains ne vont pas réfléchir sur ce passage, ils vont en profiter, puis voilà, ils n'ont pas une conscience
plupart,
plus aiguë
d'ailleurs.
Que d'autres. Voilà. Mais certains, parce qu'ils ont traversé ces classes, voient comment elles sont fabriquées. Ils peuvent voir plus clairement l'injustice. Ça peut être un observatoire des inégalités. Et ceux-là peuvent, effectivement, rejoindre d'autres dans un combat plus large pour que, justement, il y ait un élargissement, que la porte ne soit pas entrouverte, mais qu'on supprime la porte.
Mmh. Bonne formule. Natacha.
Alors, au cœur de cette question des transclasses, il y a la question scolaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il était intéressant d'entendre Pierre Bourdieu, qui a inspiré par ses réflexions sur la reproduction des élites beaucoup de penseurs de l'éducation qui ont modifié le fonctionnement de l'éducation nationale dans les années 1980-1990. Or, il se trouve que l'application de ces idées, pas de Pierre Bourdieu, mais des continuateurs, de ceux qui s'en inspiraient, a abouti à ce que actuellement l'école française soit, selon les données PISA, l'une des plus inégalitaires, voire la plus inégalitaire des pays de l'OCDE, c'est-à-dire que la classe sociale détermine quasiment absolument le destin scolaire des enfants.
Oui.
Ce qui est absolument tragique. La question du rôle de la République et de l'école, cette idée que par la scolarité, par l'émancipation, par le savoir, on va justement modifier les destins de classe. Qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Parce que c'est un projet qui est dans la droite ligne justement de l'idéal des Lumières. C'est un projet universaliste qui permet de dépasser les différentes oppositions et concurrences entre telle ou telle discrimination. Mais, de fait, c'est un projet qui a été en partie abîmé et amoindri par l'idée qu'il fallait justement ne pas faire de l'école avant tout le lieu d'émancipation par les savoirs.
Chantal Jacquet.
Alors, effectivement,
sur le rôle de l'école, oui.
L'école joue un rôle décisif dans la non-reproduction et dans l'émancipation. Et la question qui se pose, c'est celle de savoir comment on éduque pour qu'il y ait d'abord une conscience de classe, pour qu'il y ait ce désir de savoir. Mais je voudrais insister sur le fait que très souvent, on focalise l'attention sur l'école, qu'on rend responsable de tous les maux et de toutes les injustices en disant que c'est elle qui est l'outil de la reproduction, ce qui est vrai. Mais l'outil principal de la reproduction, il est aussi économique et social. C'est-à-dire, ça se joue aussi au niveau des institutions. Si vous maintenez un niveau de salaire qui est extrêmement bas, au niveau de la famille, vous ne donnez pas des instruments aussi pour accompagner cette émancipation. Si vous ne donnez pas des conditions dignes d'existence, vous aurez beau avoir la meilleure école du monde, vous ne pourrez pas transformer les choses. Autrement dit, il ne faut pas penser que ce sont seulement les conditions intellectuelles qui vont être vecteurs d'émancipation. C'est un facteur essentiel, certes, mais les conditions économique et la modification des rapports politiques, c'est-à-dire tant qu'il y a de la domination, il y a de l'oppression, il y a intériorisation de cette oppression, et tant que les classes sociales dominantes vont donner des directives pour l'école, et bien elles peuvent être au service de la reproduction. Donc voilà pourquoi la métamorphose ou la mutation, elle doit se faire aussi bien sur le plan éducatif, et vous avez tout à fait raison de souligner cette importance-là, que sur le plan économique et politique. Et si ça ne se fait pas de concert, eh bien, l'école toute seule ne changera rien.
Gilles, une dernière question.
Oui, alors, c'est précisément en raison de cette analyse que vous portez, ou vous semblez porter un regard critique sur la première catégorie, disons les transclasses interclasse, la mobilité sociale. En gros, il change sa vie, mais il ne change pas la vie. Est-ce que, malgré tout, à l'intérieur du système capitaliste, selon que la mobilité sociale est plus ou moins grande, selon que la redistribution sociale est plus ou moins forte, eh bien, la société est très profondément différente et que le Danemark, c'est pas les États-Unis. Et donc, ce regard critique sur le transclasse interclasse, eh bien, il doit être quand même nuancé.
Question ample, réponse courte, pardon.
Alors, d'abord, je ne formule pas de critique sur les personnes. Elles n'ont, c'est une nécessité pour elles de sortir d'une situation de misère et on ne peut pas leur reprocher. Donc, je ne ferai jamais un procès en trahison à personne. Simplement, je le dis, l'objectif, c'est justement d'élargir. C'est de pas passer en solo. Et à ce niveau-là, ce ne sont pas les transclasses qui ont vécu une aventure individuelle qu'on peut considérer comme fautif. C'est la société tout entière qui doit prendre en charge ce combat. Il ne s'agit pas du tout de dire ils sont responsables parce qu'ils seraient égoïstes. C'est la société qui doit s'interroger sur la manière dont elle peut produire la justice pour tous et toutes.
Merci Chantal Jacquet. Révolution Transclasse est à lire aux presses universitaires de France. Merci Gilles, merci Natacha. Merci à l'équipe du Grand Face à Face. Je vous retrouve tout à l'heure à 18h pour la fin de notre série Donald Trump, Anatomie d'une Révolution avec l'historienne Maya Kandel. Cette conversation, vous pouvez déjà l'écouter en podcast sur l'appli Radio France. Et à vous, auditeurs, je vous dis à samedi prochain, midi, pour un nouveau Grand Face à Face.